pris dans la tourmente infernale d'un travail harassant pour produire, vendre et faire marcher le cycle géant de l'argent, j'avais fini par oublier de vivre. Plus précisément, j'avais oublié de vivre pour l'inutile, donc pour l'essentiel. J'avais plus d'argent qu'il n'en fallait pour vivre, et pourtant l'essentiel était absent de ma vie. Mon fils me manque, c'est vrai, mais pas uniquement lui. Arrêter le temps à une terrasse de café pour engager la conversation avec mes voisins. Passer à l'improviste chez un ami, le serrer dans les bras et partager un repas avec lui sur un coin de table. Traverser la France et débarquer par surprise chez mes frères et sœurs que je ne vois jamais et avec qui j'ai pourtant partagé toute mon enfance. S'installer sur la terrasse près du jardin avec eux et arrêter le temps pour être ensemble. Simplement être, par une chaude soirée d'été, à la lueur de la lampe à gaz, et parfois laisser parler les silences, sans être gêné. Et puis offrir à mon corps et à mon mental des sensations apaisantes. La conférence de François Sarano m'avait rappelé à quel point mon corps aimait le contact de l'eau lorsque mes parents m'emmenaient à la plage. La plongée m'était interdite, mais François Sarano, lui, a vécu l'odyssée de l'équipe Cousteau de l'intérieur. Les questions que je me posais enfant me reviennent alors en mémoire. La plongée, c'est quoi comme sensation? Je profite de sa présence aussi miraculeuse qu'hasardeuse pour enfin avoir des réponses aux questions que je me posais enfant.
Vous plongez souvent? Qu'est-ce que vous ressentez en mer?
Première chose, c'est la jouissance physique. Quand on est en mer, la jouissance physique, la jouissance de l'eau, la jouissance aussi d'évoluer à trois dimensions, dans un volume, de pouvoir survoler en rase-motte le fond de Gorgone, le fond d'algues, les rochers. C'est une sensation incroyable. On est un petit, on est aérien, on est léger, on est comme dans ses rêves les plus fous. Comme dans ses rêves les plus fous, on passe au-dessus de canyons, on s'engage dans des vallées profondes, on en ressort, on survole les collines. C'est extraordinaire. Rien que ça, c'est une jouissance formidable. Après ça, dans ce monde que l'on peut vivre à trois dimensions, il y a tout un peuple de créatures tout à fait extraordinaires, et elles sont extraordinaires à la fois par leur diversité, par la richesse de leur comportement, de leur forme, mais surtout parce que elles se laissent approcher. Elles n'ont pas peur de l'homme. Par conséquent, on peut se mêler à elles sans qu'elles nous fuient, et lorsqu'on est patient et respectueux, eh bien, on peut se confondre avec elles, vivre avec elles quelques instants et les connaître. Vivre, c'est un peu, c'est tisser des liens, c'est connaître, c'est vivre avec, c'est passer un moment avec, sans apprendre beaucoup de choses sur elles, mais au moins être là pendant qu'elles vivent pour de bon. Quels ont leur comportement, qu'elles vous regardent, qu'elles... Oui, tisser des liens.
Vous avez répondu à mes interrogations, parce que tout ça...
Pas tout à fait, parce qu'après ça, il faut s'engager.
Oui.
Yes, sir.
Alors,
il faut s'engager, ça ne suffit pas.
Dans votre association...
Maintenant qu'on a découvert ça, qu'on était plus riche de l'attention qu'on prêtait aux autres, plus apaisé des liens que les autres tissaient avec vous, on se dit qu'on ne peut pas le garder pour soi. On se dit qu'il faut le partager pour que ma petite fille, Ayaté, pour que vos enfants et vos petits-enfants, pour que mes filles aussi, bien entendu, aient un monde plus paisible. Et ce partage, pour lui donner plus de force, plus de retentissement, eh bien, il faut lui donner une structure, un engagement, et s'engager dans des associations, que ce soit des associations qui essayent de nous appeler à modifier notre comportement de consommateur complètement fou, soit des associations qui travaillent et qui œuvrent à mieux préserver l'environnement, soit des associations comme SOS Méditerranée qui essayent d'accueillir les gens qui arrivent de lieux d'où ils ont été chassés et qu'on devrait accueillir ici au lieu de les laisser mourir en Méditerranée, d'associations qui œuvrent à sensibiliser chacun, sensibiliser et puis par exemplarité essayer d'être contagieux. Hein, on est tous en chemin, vous pourriez me poser des tas de questions en me disant « mais vous êtes en contradiction avec ce que vous dites, vous consommez ceci, vous consommez cela, est-ce que vous faites... » Oui, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, ça je suis sûr qu'on peut faire des choses mieux, pour offrir à nos enfants un monde plus paisible.
Alors dites-moi, j'ai une semaine de congé là, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine pour me reconnecter?
Vous allez en forêt de Rambouillet, et vous allez voir le chêne de Laurentillon.
C'est quoi ça, le chêne de Laurentillon?
Alors, lisez le livre « Être un chêne » de mon ami Laurentillon, qui va vous raconter l'histoire extraordinaire d'un des chênes de la forêt de Rambouillet, qui depuis le XVIIIe siècle a une histoire extraordinaire. Et rien qu'avec lui, vous allez revivre l'histoire de France à travers ce chêne-là. Et toutes les interactions, ces interconnexions, ces interdépendances qu'il a avec la vie autour de lui. Un chêne qui n'a pas bougé de place depuis plusieurs siècles. Quand on réfléchit à ça et qu'on se dit que lui est riche de toutes ces interdépendances, on se dit qu'il est facile d'en nouer, nous les humains qui pouvons parler, nous les humains qui pouvons écouter, nous les humains qui avons conscience du monde merveilleux qui est autour. Donc en forêt de Rambouillet, allez écouter les oiseaux. Si vous avez la chance de rester le soir, regardez les chauves-souris, écoutez. Et vous aurez tout de suite, tout autour de vous, un monde grouillant, je dis bien grouillant, qui, si vous n'y avez pas prêté attention, n'aurait été que pauvre de troncs qui se succèdent devant vos yeux comme les barreaux d'une barrière, et sans plus. Prêter attention, c'est devenir riche de tous ceux que l'on découvre parce qu'on leur accorde un moment et on leur prête attention.
Nous avons échangé nos numéros de téléphone.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci pour cette belle après-midi.
Et puis, nous nous sommes quittés. Lui est retourné à sa vie d'aventure, une vie passionnante sur toutes les mers du globe. Et moi, je suis retourné à Paris, gare de Lyon, ligne 1, ligne 8. Sitôt arrivé à Paris, l'enfer reprend pour moi. Je suis convoqué au tribunal des affaires familiales pour une audience. La trouille me reprend. Je vais me retrouver devant un juge des enfants, la mère de mon fils, son avocate et la greffière. Moi, seul homme dans cet espace clos, où se joue en 30 minutes maximum la vie d'un enfant et de ses parents. Je vais devoir convaincre une assemblée de femmes, soudées par la solidarité féminine, que mes droits de père sont bafoués et que mon fils en pâtit. La boule au ventre, je dois préparer l'audience. Ça commence par consulter le rapport que les services sociaux ont rédigé.
Palais de justice de Paris, bonjour.
Bonjour madame, monsieur Lubéra à l'appareil. J'ai une audience devant le juge des enfants qui arrive, mais j'ai toujours pas reçu le rapport des services sociaux. Est-ce que c'est normal?
Ah non monsieur, on ne communique pas ce genre de document.
Et comment ça? Attendez, je comprends pas. Ils ont rédigé un rapport qui me concerne, ainsi que mon fils et sa mère. Donc si ça me concerne, j'ai le droit d'y avoir accès, non?
Ah oui, mais si vous voulez le consulter, vous devez venir au palais de justice.
Venir sur place? Mais et les gens qui travaillent?
Écoutez, c'est comme ça.
Écoutez, la mère de mon fils, elle connaît tout le contenu du rapport et pourtant, elle ne s'est jamais déplacée.
Mais madame a un avocat?
Oui, elle a un avocat, oui.
Ah, les rapports sont envoyés aux avocats, pas aux justiciables, monsieur.
Ah d'accord. Donc si je ne prends pas d'avocat, je suis obligé de me déplacer, c'est ça?
Oui, c'est ça, monsieur. Vous voulez le consulter?
Oui, bien sûr, je veux le consulter. Je passerai demain.
Oh non, attendez, monsieur, ça se fait pas comme ça. Hein. Il faut nous envoyer une demande écrite, en recommandé, et on vous répondra par courrier. Et là, on vous donnera une date de consultation.
Vous êtes marrante. Si j'ai prévu quelque chose ce jour-là...
On ne peut pas se mettre au service de tout le monde.
Oui, et vous pourriez simplifier les démarches.
Hein. Bon, écoutez, écoutez, monsieur, j'ai du travail. Vous voulez venir consulter ou pas ?
Bon, écoutez, j'ai votre adresse. Je vais vous envoyer une demande écrite. Quel délai pour recevoir la convocation ?
Il faut compter une dizaine de jours, monsieur.
C'est noté. Bonne journée, madame.
Bonne journée, monsieur.
Pour quelles raisons les personnes concernées n'ont-elles pas la possibilité de recevoir chez elles ce document si important ? On ne le saura pas. C'est Brésil. On nage en plein Kafka. Je vais devoir prendre une matinée pour seulement 20 minutes chronométrées et surveiller à lire un rapport alors que je pourrais le recevoir dans ma boîte mail. Je repense à ce que disait le commandant Cousteau. La sagesse nous conduit à simplifier notre vie. Depuis, ça n'a pas changé. Ça a même empiré. On a de moins en moins de temps. Pas étonnant que les gens aient grise mine. La boule au ventre, devant courir pour chaque chose que l'on doit faire. Dans cette vie-là, comment peut-on jouir du bonheur de voir un papillon, une fleur, la mer ? Eh bien, on ne peut pas. Tout simplement parce qu'on doit rédiger une lettre pour demander à consulter le rapport des services sociaux.
15 minutes.
Faire une photocopie de la carte d'identité.
3 minutes.
L'imprimante ne marche plus. Il faut réparer en vain.
30 minutes.
Les effets de l'obsolescence programmée. Descendre au magasin pour acheter une nouvelle imprimante.
45 minutes.
Demander un acte de naissance sur Internet.
10 minutes, plus 10 jours d'attente.
Mon assurance refuse de prendre en charge une dépense liée à un sinistre. Me déplacer à l'agence pour faire une réclamation.
20 minutes.
Pour résilier mon abonnement téléphone immobile, je cherche le numéro sur le site Internet de l'opérateur. Après ces 40 minutes, je finis par le trouver. Et je tombe sur un message vocal qui renvoie sur le site.
Market Joe Street. Et vous, les passants, qui me regardez, les yeux pleins de tendresse. Je me sens bien ici, en sécurité. J'ai pas envie que ça s'arrête. Et puis tiens, la rue, si je la redescendais, comme au bon vieux temps, j'approche. Je vais le retrouver. Je sais pas quoi exactement, mais ça fleure bon le bonheur. J'y suis presque.
C'est le même rêve depuis des années. Quasiment tous les ans. Une petite ville en bord de mer dans laquelle j'avais passé un été lorsque j'étais adolescent. Un petit paradis. Ma première expérience d'adulte, loin de l'autorité des parents. Des gens qui m'hébergeaient avec beaucoup de bienveillance, des musiciens qui m'invitaient à les accompagner à la batterie dans l'ambiance enfumée d'un pub anglais. Impression de douceur, sentiment d'être en terrain familier. C'est un rêve rassurant, duquel on aimerait ne jamais se réveiller. J'ai le sentiment qu'il veut me dire quelque chose, mais que je ne suis pas prêt à le comprendre. Ce rêve allait me suivre toute la journée, tout comme les propos que François Sarano avait tenus la veille. Ces propos qui me donnent l'envie de changer mon mode de vie.
Face à face, dans le silence.
Le silence.
C'est le seul moyen de retisser des liens, de se regarder dans les yeux, de se caresser, de se parler, d'échanger, de se contredire, de s'embrasser.
Oublier ma pudeur et enfin serrer un proche dans mes bras. Lâcher prise et laisser mon regard parler à quelqu'un qui m'est cher.
Nous n'existons que par les interdépendances que nous avons avec les autres.
Perdu dans le travail, j'ai fini par oublier d'exister. Aller à la rencontre, c'est maintenant, maintenant ou jamais.
En montagne, on marche, on est à un rythme vrai, un rythme juste, le rythme de la marche, le rythme de la nage.
Le rythme juste, ralentir, prendre mon temps, être là, pleinement, moi qui passe ma vie à courir.
Regarder et pas simplement voir.
J'ai longtemps été aveugle.
Et quand tout d'un coup on fait attention, on se relie à ceux qui sont autour de nous, on les fait exister.
Combien de temps que je ne fais plus exister ce qui m'entoure ? Fini la cécité, terminée la surdité. Il est temps de remettre mes sens en éveil et de redonner du sens à ma vie. Il est temps de me retrouver et de répondre à l'appel de l'enfance.